Radio Okapi. Grande interview. Bonjour dans Grande Interview. Aujourd'hui, Donna Madimba reçoit Bruno Le Marquis, en poste en République démocratique du Congo depuis 2022, chef adjoint de la MONUSCO. Il occupait également la fonction de coordinateur résident et humanitaire au sein des Nations Unies en RDC. Bruno Le Marquis a été nommé représentant spécial adjoint auprès de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, coordonnateur résident et humanitaire par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 28 avril 2026. Durant son mandat en RDC, il a été en première ligne de la réponse humanitaire dans un contexte marqué par une crise prolongée avec environ 7 millions de déplacés internes, principalement dans l'est du pays. Auditrices, auditeurs et internautes de Radio Okapi, merci de nous recevoir chez vous.
Bruno Le Marquis, bonjour et merci une fois encore de vous rendre disponible pour servir les auditeurs de Radio Okapi. Alors, après avoir exercé en République démocratique du Congo comme représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur résident et donc chef des opérations humanitaires dans le pays pendant près de 5 ans, vous voilà qui partez déjà pour de nouvelles responsabilités ailleurs dans le monde. Si vous devriez faire un bilan de votre mandat en RDC, vous direz quoi de manière brève?
Bon, merci beaucoup. Ça a été un grand honneur de servir la République démocratique du Congo. C'est un pays que je connaissais pas du tout. C'est une région que je connaissais très peu. J'ai bourlingué dans pas mal de pays, mais jamais dans cette région d'Afrique centrale. Et j'ai découvert un pays magnifique avec des personnes magnifiques, des souvenirs qui vont rester toute ma vie. C'est 4 années inoubliables, presque, bon, 4 années et demie inoubliables. Souvent les gens disent ce que je retiens, comment aborder la RDC quand on arrive ici, comment aborder la RDC. J'ai appris très vite le mot paradoxe. Quelle peut être ma petite contribution à trouver le chemin pour résoudre le paradoxe congolais. Le paradoxe congolais, c'est la différence, le manque de corrélation entre le potentiel du pays, toutes les opportunités qu'il y a dans le pays, qu'on parle de forêt, qu'on parle d'eau douce, qu'on parle de potentiel hydroélectrique, qu'on prenne à peu près n'importe quel sujet. Le potentiel est là, le potentiel est inimaginable pour certaines dimensions. Et puis la réalité des faits. Et puis ce classement, j'ai regardé le classement de la RDC par rapport à plusieurs index de développement, et donc il y a toujours ce manque de corrélation. Donc le paradoxe. Quelle peut être ma petite contribution pour fermer un peu ce gap entre ça. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre, souvent les gens qui viennent travailler ici disent, mais par où on commence? Par quel bout le prendre? Et les partenaires de développement, certains vont dire, bon, on a pris le parti de travailler au niveau d'une province. On va travailler au niveau d'une province, peut-être qu'il y aura plus de résultats. D'autres disent, on va travailler au niveau national, parce que c'est là qu'il faut influencer. D'autres vont dire, on va aller au niveau local, parce que là, on va toucher les gens directement, on va avoir l'impact de nos investissements, etc. Mais c'est tellement grand. Il faut travailler partout, et il faut faire des liens, oui. Donc, on peut partir frustré de ce pays, parce qu'on dit, quelle a été ma contribution? Mais voilà, c'est vraiment, ça fait partie des défis de ce grand, grand, grand pays. Donc les défis sont grands, les opportunités sont grandes.
Bruno Le Marquis, on a un petit bout de temps pour rentrer dans quelques détails de votre carrière de manière générale, mais aussi de ce passage en République démocratique du Congo. Avant la RDC donc, vous êtes notamment passé à la RCA en Haïti, toujours dans l'humanitaire. Alors on a envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans l'humanitaire, dans le développement?
Bon, moi je pense que il faut que je me ramène dans le passé. Adolescent, mes études, etc. J'ai fait des études d'agronomie parce que je voulais être travaillé comme agronome à l'étranger. Je suis français, mais je voulais toujours travailler comme agronome à l'étranger. Donc j'ai dirigé mes études vers l'agronomie tropicale. Et puis j'ai eu la chance de tout de suite trouver des opportunités à l'étranger. J'ai commencé, j'avais 22 ans en Haïti. C'était 1985, c'était avant, quelques mois avant le départ de Duvalier. Avec mes amis haïtiens, je dis que c'est moi qui ai fait partir Duvalier, puisque trois mois après mon arrivée, il est parti. Donc ça, ça remonte. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai travaillé 5 ans pour des ONG en Haïti et au sud de l'Éthiopie. Et puis ensuite, j'ai eu la grande, grande chance, un peu par hasard, de rentrer aux Nations Unies en 92 au Cambodge, dans une période extraordinaire au Cambodge, puisque c'était l'accord de paix, le retour du roi, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans les territoires palestiniens. J'ai travaillé 14 ans au siège à New York, mais toujours dans les questions de post-crise, conflit, contexte de relèvement, etc. J'ai travaillé en Somalie. J'ai travaillé plusieurs fois en Haïti. Haïti, c'est vraiment le pays duquel je suis le plus proche, parce que j'ai travaillé 9 ans au total. Et puis la RDC, c'est un peu le point culminant en termes des défis, des opportunités, des challenges.
Vous avez donc une expérience avant la RDC, une expérience solide, mais avant justement la RDC, puisqu'on va y arriver dans un petit moment, quels sont les moments marquants de votre carrière et les moments difficiles justement dans cette étape avant la RDC?
Bon, j'ai plein de très jolis moments dans toute ma carrière, des grandes choses, des grands événements pour certains pays, des moments de joie, et puis aussi des moments plus difficiles. En préparant pour cette interview, je me disais, si on me pose cette question, y en a deux qui ont vraiment marqué la famille des Nations Unies et puis les pays où ça s'est passé. C'était le premier, c'est le 19 août 2003 à Bagdad. Moi, j'y étais pas, mais j'étais le desk, j'étais la personne au PNUD. J'ai fait la plupart de ma carrière, l'essentiel de ma carrière au PNUD. Donc j'étais la personne qui suivait l'Irak depuis New York. Donc j'étais tous les jours, plusieurs fois par jour avec les collègues à Bagdad. Et ça, c'était donc après la chute de Saddam, etc. Et donc il y a eu cet attentat à Canal Hotel qui a causé la mort de Sergio Vieira de Mello et de nombreux collègues. Donc ça a été... Et ce moment a changé un peu la posture de sécurité des Nations Unies. Depuis ce jour, les Nations Unies se sont beaucoup plus refermées sur elles-mêmes à cause de ces risques de sécurité, surtout d'attentats terroristes. Donc ça, c'était un moment vraiment très dur pour tout le monde. Et puis l'autre, c'est le 10 janvier 2010, avec ce pays duquel je suis si proche, Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, qui a fait, bon, disons 150 000 morts, le plus grand tremblement de terre de l'histoire qui touche une capitale. Le gouvernement entièrement décimé, enfin largement décimé, etc., etc., c'est connu. Donc ça, tellement de collègues, d'amis sont décédés. Donc ça, moi j'y étais tout de suite après pour plusieurs mois, mais ça c'était un coup très dur et bon, ça fait toujours mal, quoi.
Et comment toute cette expérience a-t-elle pu conduire, guider votre approche de la gestion du cas complexe de la RDC?
Bon, moi, partout où je passe, j'essaye de faire la distinction entre les symptômes et les causes. C'est vraiment l'approche qui me caractérise, quoi, les symptômes et les causes. Quand on travaille dans les pays fragiles, les pays en crise, les pays post-conflit, etc., il y a facilement tendance à courir après la crise du jour, parce qu'elle est visible, parce que peut-être on peut avoir des résultats plus rapides. Donc, voilà, quand on regarde l'énergie, le temps, les ressources qui sont... mise sur les symptômes des crises, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que prévenir les crises ou essayer de les décortiquer. Donc moi, je fais toujours la balance. Depuis 6 ans, ça m'est venu, je me souviens plus comment, mais cette notion de nœud gordien m'est venue à la tête en Haïti. Et depuis, j'utilise toujours, tous les jours, cette notion de nœud gordien. Donc, dans les pays en crise, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour répondre aux souffrances immédiates des gens, donc ça c'est l'action humanitaire d'urgence, mais il faut aussi travailler sur la prévention des conflits. Donc ici en RDC, ça veut dire la prévention par exemple des conflits fonciers. La plupart des conflits viennent des questions de terre, d'accès aux ressources, les questions de transmission du pouvoir coutumier qui peuvent causer une petite étincelle qui crée un incendie, etc., etc. Donc ça c'est la prévention. La prévention des désastres, Il n'y a aucune raison qu'un aléa climatique, une grosse pluie, crée un désastre si on est bien préparé, si les communautés sont préparées, les infrastructures sont résilientes, etc. Donc ça, c'est la prévention. Et l'autre, c'est s'attaquer aux nœuds gordiens. S'attaquer aux nœuds gordiens. Les nœuds gordiens, et j'ai fait ça dans... Enfin, c'est cette approche qui m'a guidé dans les pays où j'ai travaillé. Et ici, les nœuds gordiens du Congo sont très profonds, très compliqués, très, très, très compliqués. Ils ont des dimensions qui vont au-delà des frontières du pays, et notamment toute la question des flux financiers illicites, la question de l'exploitation des ressources naturelles, y compris de manière illicite. Tout ça, c'est derrière chaque conflit en RDC. On va trouver un peu de ces choses, l'accès aux ressources, et puis la question de qui est derrière tout ça et quels sont les intérêts. J'ai l'habitude de dire, derrière chaque conflit, il y a parfois des ficelles, parfois des cordes et parfois des câbles. Donc il faut vraiment s'attaquer à ça. C'est très compliqué, ça prend une volonté politique des pays concernés, mais ça prend aussi une approche de tous les partenaires, Nations Unies et autres, pour pousser dans cette même direction, coordonner leurs efforts pour s'attaquer à ces nœuds gordiens, parce que ces nœuds gordiens créent tellement de souffrances et de misère dans les populations.
Je me sens bien aujourd'hui.
Eh oui, il y a des jours comme ça.
Il ne faut pas chercher à comprendre, vis juste le moment.
La vie n'est pas évidente. Ces temps-ci, on passe à un moment très complexe et étrange sur toute la planète. Et là, aujourd'hui, tout va bien.
Allez, viens avec moi.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, tant d'une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout flamme caramel.
Allez, tout comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Il y a un ami colo, tu y es petit, tu es grand, tu es seul, tu es grand.
Alors, Bruno Le Marquis, vous arrivez donc en République démocratique du Congo en 2022 en tant que représentant spécial, adjoint et coordonnateur résident, et vous avez géré plusieurs défis donc. Quel a été votre plus grand défi personnel et professionnel pendant votre prise des fonctions en RDC?
Bon, il y a eu beaucoup de crises durant ces les 30 dernières années, mais disons les 4 années et demie où j'ai été ici, donc ça... Il y a eu des petites crises d'Ebola, mais maintenant il y a celle qui vient juste de démarrer. Ça, c'est le genre de défi auquel on est confronté. Il y a eu bien sûr la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est avec la prise de Goma, la prise de Bukavu, février 2026. Ça a été une chose qui continue, mais le moment où la crise est arrivée, ça, c'est ce genre de phénomènes, bon, ça entraîne beaucoup d'activités. Au niveau des Nations Unies, il a fallu bouger beaucoup de personnel, il a fallu restructurer, donc ça, c'était vraiment un grand défi. Mais au-delà de ça, ponctuel, le plus grand défi, c'est celui que j'ai mentionné avant, c'est ce défi de par où on commence, avec tous ces nœuds gordiens, ces complexités propres à la RDC, et comment est-ce que je peux trouver un chemin pour essayer d'avoir un impact. Un domaine dans lequel, je peux prendre celui-là par exemple, comme exemple, c'est tout ce qu'on appelle dans notre jargon le nexus. Donc comment faire en sorte pour les acteurs, les nombreux acteurs de développement humanitaire et de paix qui travaillent en RDC, travaillent mieux ensemble pour avoir un impact et aller vers une moindre dépendance de certaines populations dans certaines régions à l'aide humanitaire. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, et pour moi le fil directeur, c'était deux choses: c'est mettre l'État congolais au centre, comment faire en sorte que cette approche ne soit pas une approche des partenaires, des Nations Unies, des bailleurs de fonds, des ONG, mais que ce soit l'État congolais qui soit le leader de cette approche. Je pense qu'on a beaucoup avancé. Après demain, il y aura une grande réunion présidée par le ministre d'État, ministre au plan, sur ce sujet, parce qu'il a lancé un comité national Nexus, donc ça c'est important. Et puis, souvent le défi en RDC, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle. On peut faire une jolie chose dans quelques zones, mais comment est-ce qu'on passe à l'échelle dans ce grand pays? Donc ça, c'est aussi une chose sur laquelle on a vraiment travaillé avec de nombreux partenaires. Arrêter de faire des petits projets à droite à gauche qui ne font pas de mal, mais qui vont pas changer la donne, pour arriver à passer à l'échelle grâce à l'impulsion de l'État congolais.
Et justement, dans un contexte d'insécurité chronique, comme c'est en RDC, comment réussir l'opérationnalisation de ce nexus paix, humanitaire, développement?
Bon, c'est un peu ce que je viens de dire. Il faut vraiment que les acteurs nationaux soient au centre. Donc, si je prends l'exemple du Tanganyika et de l'Ituri, on a vraiment beaucoup travaillé. Ce sont des zones où il y a énormément de déplacés internes, beaucoup autour de la ville de Kalemie, disons qu'il y en a 300 000. Et puis, en Ituri, il y a à peu près 40% de la population itourienne est déplacée, y compris dans des zones relativement stables, où grâce aux efforts de sécurisation, les zones sont plus ou moins stabilisées. Mais maintenant, il faut donner un grand coup d'accélérateur pour passer à l'échelle. Comment faire que ces 300 000 déplacés de Kalemie soit retournent chez eux, soit s'installent? Il faut une approche qui mette l'État au centre, qui mette les gouverneurs au centre, qui assure la coordination interministérielle entre le ministère du budget, le ministère des affaires foncières, etc., que l'action publique soit coordonnée et que les partenaires s'alignent derrière ça. Alors que pour l'instant, on est encore dans une logique, et c'est pas une critique, mais c'est la réalité, une logique où, bon, on va faire quelques projets financés par les partenaires, mis en œuvre par des ONG, des agences des Nations Unies, qui vont aider à le retour de quelques milliers de personnes, mais on s'attaque jamais à l'ensemble du problème. Donc il faut État au centre et passer à l'échelle.
Bruno Le Marquis, à force d'être très actif dans votre deuxième casquette, celle de la gestion humanitaire, ça retient un peu plus l'attention, mais vous êtes en même temps, comme l'avons dit dans cette interview, le chef adjoint de la MONUSCO. Alors la MONUSCO est dans cette phase de désengagement avec transition que tout le monde connaît. Quelles sont selon vous les leçons qu'on peut tirer et quelles recommandations vous faites pour le futur?
Alors, si on regarde l'histoire de MONUC et MONUSCO depuis 99, il y a eu cette transition, puisqu'à un moment, la MONUC était dans tout le pays, lorsqu'elle a été créée, comme instrument stabilisateur du pays qui était divisé à l'époque. Et petit à petit, la MONUSCO s'est retirée, grâce à tout ce, bon, un désengagement graduel, et maintenant la MONUSCO n'est plus que en Ituri et au Nord Kivu, avec la situation particulière dans les zones sous contrôle des autorités de facto. Moi, depuis que je suis arrivé, la MONUSCO s'est retirée de deux provinces, le Tanganyika en 2022 et le Sud Kivu à la mi-2024. Il y a beaucoup de leçons qui ont été tirées de ces différentes expériences. Mon obsession quotidienne, depuis que je suis ici, au sein de la MONUSCO, c'est de s'assurer qu'on prépare toujours la transition. Je vais expliquer un peu. Pour le moment, le désengagement de la MONUSCO est en pause, comme on le sait. Il y avait eu une demande du gouvernement congolais, soutenue par le Conseil de sécurité, en 2023, pour que la MONUSCO se désengage graduellement. Pas une situation comme au Mali, où la mission, le gouvernement avait demandé à la mission de partir brutalement, mais ici c'était un désengagement responsable, et graduel, etc. Donc on était sur ce chemin du désengagement avec un travail précis, coordonné, avec conjointement avec les autorités nationales et provinciales à Bukavu pour le retrait du Sud Kivu. Ensuite, tout a changé en janvier 2025, après la chute de Goma et de Bukavu. Et donc, pour l'instant, le langage qu'on utilise, c'est le désengagement est en pause, et la transition est en pause. Néanmoins, la transition, on la prépare tous les jours, sur toute la vie d'une mission, puisque quand une mission s'en va, surtout dans un contexte où il y a moins de trajectoires de paix. Il y a des pays où il y a des missions qui ont été déployées, où il y avait une trajectoire de paix. Le pays est sorti de la guerre, les élections ont eu lieu et le pays a décollé. Donc là, la mission reste 3, 4, 5 ans. C'est le cas du Cambodge, où j'ai commencé ma carrière, ou du Timor de l'Est. Il y a d'autres pays comme le Sud-Soudan, la Centrafrique, la RDC. Ça tourne, ça reste, ça dure. C'est vraiment des crises prolongées. Mais quoi qu'il en soit, préparer la transition, ça veut dire s'assurer que les institutions nationales soient prêtes à jouer leur rôle, surtout pour les fonctions régaliennes de l'État, de sécurité et justice, protection des civils, les systèmes nationaux soient prêts, les allocations budgétaires, le déploiement des fonctionnaires, etc., que les capacités soient là, et donc tout ce temps dont nous disposons avant le départ final de la MONUSCO un jour doit être mis pour s'assurer que la justice militaire congolaise, l'administration pénitentiaire congolaise, les forces de sécurité congolaises, la police nationale congolaise et tant d'autres institutions aient bénéficié durant tout ce temps d'un appui de la MONUSCO et d'autres agences du système des Nations Unies pour que, lors du départ final, elles puissent marcher avec leurs deux pieds, avec, si nécessaire, la continuation de l'appui par les agences des Nations Unies et d'autres partenaires.
Radio Okapi. Grande interview. Dans Grande interview, aujourd'hui, Dona Madimba reçoit Bruno Le Marquis, en poste en République démocratique du Congo depuis 2022, chef adjoint de la MONUSCO. Il occupait également la fonction de coordinateur résident et humanitaire au sein des Nations Unies en RDC. Bruno Le Marquis a été nommé représentant spécial adjoint auprès de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, coordonnateur résident et humanitaire par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 28 avril 2026. Durant son mandat en RDC, il a été en première ligne de la réponse humanitaire dans un contexte marqué par une crise prolongée avec environ 7 millions de déplacés internes, principalement dans l'est du pays.
Vous n'avez passé en RDC que le temps que vous y avez passé, Bruno Le Marquis. Néanmoins, quelle image, quelle rencontre dans ce pays vous a marqué ou vous inspire?
Bon, il y en a tellement. Il y en a eu une hier, quand les groupes constitués de la jeunesse sont venus me dire au revoir. Donc, ils étaient 16. Le président du Conseil national de la jeunesse, un représentant au Parlement, à l'Assemblée nationale, un jeune parlementaire, le secrétariat de la résolution 2250, le point focal de la présidence, tous ces des représentants de réseaux de jeunes, etc., sont venus dire au revoir, et c'était assez, et beaucoup d'émotions. Et puis, dans quelques jours, j'aurai le représentant des personnes vivant avec handicap, avec lesquelles on a aussi beaucoup travaillé. Donc ça, j'ai eu la semaine, il y a quelques jours, une rencontre très, très, très émouvante avec les représentants des ONG nationales, avec lesquelles on a aussi tellement bien travaillé. Donc ça, c'est tous les partenaires avec lesquels j'ai travaillé depuis toutes ces années. Et puis, sur le terrain, toujours ces rencontres sur le terrain, et comme les voyages que j'ai fait dans le pays, mais surtout à l'est, puisque c'est là où il y avait quand même le centre de gravité de mes voyages, de mes missions, toutes ces rencontres avec des personnes affectées par les crises, avec les communautés déplacées. Donc à chaque fois qu'on visite, on s'assied pendant des heures pour des témoignages de femmes, de filles, de jeunes, des représentants des sites de déplacés, etc. Et ça, c'est toujours très 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 poignant, surtout quand des gens disent que la seule chose qu'ils veulent, c'est vivre tranquillement, aller dans leur champ, apprendre un métier, et pas être entraîné dans cette spirale de violence sans fin.
L'opinion verra très bien toutes les actions que vous avez pu poser, et parmi ces actions, il y a des plus marquantes en termes de positivité. Mais y a-t-il, Bruno Le Marquis, un regret, une action que vous pensez que vous aurez pu poser, mais que vous n'avez pas fait, qui cause chez vous un regret? Si oui, laquelle, en quelques minutes?
Au moins, ça me donnera une occasion de revenir, si j'ai... Non, bon, c'est pas la frustration, mais c'est ce que je disais au début. Par où commencer? C'est tellement complexe, c'est tellement grand, c'est tellement, il y a tellement de défis, etc. Par où commencer? Donc, on reste toujours un peu
une petite soif?
Une petite soif, oui. J'espère que quelques-unes des petites graines qu'on a contribué à semer vont pousser, notamment tout ce qui est la question du nexus et solutions durables. Je crois qu'il y a une impulsion maintenant qui a été donnée, donc j'espère. La question de la prévention, je pense que récemment il y a eu une avancée par rapport à la prévention des risques de catastrophes, où le gouvernement, avec un très fort leadership national, a pris le sujet plus à bras le corps qu'auparavant. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Après, des choses que je laisse, mais certaines sont en cours, donc je suis confiant que ça va continuer, c'est qu'entre le système des Nations Unies et certains des groupes constitués de la société, il y ait des cadres de dialogue réguliers avec les jeunes, avec les femmes, avec la société civile et avec le secteur privé. Puisque les Nations Unies ne doivent pas travailler de manière séparée, mais on est là au service, on est là à l'écoute de tout le monde, on doit travailler avec tout le monde.
Et pour le reste, quelle pourrait être votre plus grande satisfaction, votre plus grand espoir pour la RDC, surtout pour les 12 prochains mois à venir, par exemple?
Bon, les 12 prochains mois, je ne sais pas, mais à moyen terme, je pense que si la RDC arrive à débloquer certains de ses blocages, c'est ce que je disais la semaine dernière dans une réunion avec plusieurs ministres, la RDC, c'est comme un géant qui dort. Mais le jour où la RDC trouve le chemin pour résoudre son paradoxe, oui, et une partie du chemin, c'est résoudre certains blocages internes dans la manière dont la complexité institutionnelle, Voilà, il y a des blocages internes qui sont bien connus. Le géant qui dort pourra devenir un tigre. Et on sait ce que ça veut dire en économie, en géopolitique. Les tigres, ce sont les pays qui tout à coup décollent. Il y a les tigres de l'Asie du Sud-Est, il y a les tigres africains. Ce matin, j'ai vu un classement des pays au monde qui ont la plus forte croissance économique au monde cette année, ou l'an dernier peut-être. Sur les 20 premiers, il y a 12 pays africains. Donc, et dont la RDC, qui est 18e sur 20. Ça veut dire que le géant commence à se réveiller. Il faut maintenant que sa croissance économique ne soit pas une croissance économique, il faut que ce soit une croissance économique plus inclusive, puisqu'elle est essentiellement basée sur l'exportation, ou bientôt la question des minerais. Donc il faut que ça profite plus à la population pour s'attaquer à la grande pauvreté. Mais ça, je pense que c'est la chose, c'est là juste devant nous, c'est devant nous, commencer à résoudre ce paradoxe congolais. Et donc mes successeurs, mais aussi tous les partenaires qui travaillent ici, de la communauté internationale, etc., en RDC, qui cherchent le chemin pour résoudre ce paradoxe, je pense qu'on est sur la bonne voie.
On reviendra tout à l'heure pour terminer sur une dernière phrase que vous pourriez recommander à votre successeur Bruno Le Marquis. Mais dans une des nombreuses interviews que vous avez accordées à Radio Okapi ou à d'autres médias congolais, vous avez mentionné deux notions sur lesquelles on aimerait avoir votre commentaire. Ce soir, vous avez parlé de la volonté politique, mais vous avez aussi semblé dire que ce qui serait plus important si on devrait aider la RDC ou ses populations en difficulté, ce serait que la guerre cesse. Ce soir, quel commentaire feriez-vous sur ces deux notions?
Bon, pour que la guerre cesse, alors moi comme coordonnateur humanitaire, je dis toujours que la meilleure réponse humanitaire, c'est de diminuer les besoins humanitaires. Bien sûr, il faut répondre, mais surtout il faut les diminuer. Et comment est-ce qu'on diminue les besoins humanitaires? C'est à travers la paix, donc les processus politiques, avec le respect par les parties prenantes, les signataires d'accord de leurs engagements sur le terrain. Puisque la plupart des cette crise congolaise humanitaire, c'est une crise de déplacement, une crise de protection. Donc la paix, mais il y a beaucoup de paix à signer en RDC. Il y a les grands conflits, il y a les petits conflits locaux. Donc la paix. Deuxièmement, c'est la prévention. Troisièmement, c'est s'attaquer aux racines profondes, aux causes, aux nœuds gordiens de ces conflits. Donc ça, définitivement. La solution à cette crise humanitaire dans laquelle on investit chaque année tellement d'argent, c'est la paix. La volonté politique, oui, ça c'est absolument l'ingrédient numéro un partout dans le monde pour faire avancer les choses. Volonté politique pour la paix, volonté politique pour résoudre les problèmes internes, volonté politique pour la coordination de l'action publique, volonté politique pour faire en sorte que toute cette assistance qui est donnée à la RDC soit alignée derrière les priorités nationales. Derrière tout, il y a la volonté politique qui doit aussi se traduire en investissement, parce que ça, c'est l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de même certaines des bonnes décisions politiques ou politiques publiques qui sont à l'œuvre en RDC sont sous-financées. Donc ça, c'est les décisions budgétaires, ce sont des décisions politiques.
Et selon vous, y a-t-il espoir avec la gouvernance en ce moment, avec les acteurs dans l'action en ce moment? Y a-t-il espoir que ces deux notions avancent rapidement dans les jours à venir?
Bon, dans les jours, je ne sais pas, mais on ne peut qu'espérer que les dirigeants politiques qui sont très impliqués dans tous ces sujets continue la marche vers la paix, puisque cette sous-région a trop souffert des affres de la guerre, c'est une expression que j'ai appris au Congo, les crépitements de balles, voilà, tout ça, donc les dirigeants du pays sont fermement engagés dans tous ces processus, mais maintenant il faut la concrétisation sur le terrain de ce qui est signé, et pour l'instant on voit toujours un décalage entre les discussions, les accords et la réalité sur le terrain. Par rapport au développement du pays, bon, c'est facile de critiquer, mais moi je regarde toujours le verre à moitié plein. Il y a des grandes choses qui sont faites dans ce pays. Je dis pas qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, il y a beaucoup de défis, de gouvernance, etc. Mais il faut quand même tirer son chapeau à certaines des politiques publiques, des décisions qui ont été prises, que ce soit par rapport à la couverture sanitaire universelle, la gratuité de l'éducation, le PDL, le programme des 145 territoires, tout ce qui a été fait au niveau de la lutte contre l'impunité, la création du FONAREV, etc., toutes ces choses, c'est très très important. C'est perfectible, évidemment, et il reste beaucoup à faire, mais il faut être constructif et il faut appuyer toutes ces démarches. Et moi, c'est pendant ces 4 ans, j'ai appuyé à faire en sorte qu'au sein de ce qu'on appelle l'équipe pays des Nations Unies, on se dirige plus vers cet appui en expertise, en conseil, en expérience comparative entre plusieurs pays, auprès des autorités nationales pour influencer des bonnes décisions, influencer la prise de décision pour que le pays avance sur le chemin du développement.
Vita, vida con gozana, con acatago, fecha, pasante na patoto, chica de pamocha, tu guía que mocha, si no tú te atienda. Radio Okapi. Grande interview.
Dans Grande Interview, aujourd'hui, Dona Madimba reçoit Bruno Le Marquis, en poste en République démocratique du Congo depuis 2022, chef adjoint de la MONUSCO. Il occupait également la fonction de coordinateur résident et humanitaire au sein des Nations Unies en RDC. Bruno Le Marquis a été nommé représentant spécial adjoint auprès de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, coordonnateur résident et humanitaire par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 28 avril 2026. Durant son mandat en RDC, il a été en première ligne de la réponse humanitaire dans un contexte marqué par une crise prolongée avec environ 7 millions de déplacés internes, principalement dans l'est du pays.
Bruno Le Marquis, si vous devriez définir votre mission en une phrase, quel serait votre leitmotiv?
Bon, j'ai appris une phrase la semaine dernière que je vais partager. Elle a toujours été dans ma tête, cette phrase, mais la semaine dernière, un chercheur congolais, que je ne vais pas nommer, mais s'il écoute l'émission, il va se reconnaître, bien sûr, on l'avait invité à notre retraite annuelle de l'équipe pays des Nations Unies, et il nous a recommandé de ne pas investir dans les faiblesses de l'État. Alors, c'est une phrase qui nous a fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas investir dans les faiblesses de l'État ? Et en fait, c'est la démarche que moi j'ai toujours poursuivie, c'est-à-dire quand les choses sont difficiles, n'essayons pas de contourner l'État pour mettre en œuvre nos projets, nos réponses, etc. Parce qu'en contournant l'État, on continue à l'affaiblir. Et ensuite, on sera les premiers à critiquer l'État pour être faible. Mmh. Donc, travaillons avec les institutions nationales, qui qu'elles soient, quelles qu'elles soient au niveau national, provincial, etc. Donc ça, c'était une phrase que je vais vraiment retenir pour mes prochains postes, ne pas investir dans les faiblesses de l'État. Sinon, j'ai appris beaucoup de Français congolais. J'ai eu une réunion la semaine dernière avec un ministre d'État aux Affaires humanitaires, F. Bazaïba, qui m'a demandé « Alors, qu'est-ce que vous avez appris comme Français congolais ?» Donc j'ai appris « Merci pour la parole accordée ». J'ai dit « Je vous remercie ». J'ai beaucoup appris le mot « déjà ». Le mot « déjà », c'est si je quitte la RDC avec un seul mot, c'est « déjà ». Parce que, bon, moi j'utilisais, c'est déjà l'heure, mais ici, surtout à Kinshasa, avec les embouteillages, le déjà peut vous faire attendre des heures, puisque la personne est déjà partie, mais la personne n'est pas encore arrivée. Et puis, j'ai souvent terminé mes interventions ici avec la phrase suivante, les gens qui me connaissent sont bien habitués, « Tozali esika moko, tukoba moja ».
Tukopamoja. Et vous auriez pu le dire dans d'autres langues de la RDC. Il y en a tellement. Merci, Bruno Le Marquis. Ceux qui ont compris ces deux langues vont s'en réjouir certainement et toute la RDC va se réjouir de voir que, la RDC peut aussi apprendre un certain nombre de choses à beaucoup de gens. Bruno Le Marquis, nous sommes en train de terminer cet entretien. Nous vous avons déjà remercié pour ça et nous continuerons à le faire. Quel message pourriez-vous, par exemple, adresser aux populations de la RDC? Vous l'aviez presque déjà un peu fait à un moment de notre entretien, mais puisque nous sommes en train de terminer, ce serait quoi votre message ultime aux populations de la RDC et notamment, nous y venons, à votre successeur, celui qui viendra à votre place une fois que vous êtes parti?
Bon, mon souhait pour le pays en général, c'est de gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est un. Mon souhait pour la population de Kinshasa, c'est que d'ici 2-3 jours, les embouteillages soient terminés. Voilà. Mon message aux populations de l'Est, aux populations affectées, que, bon, chaque fois, je les ai rencontrées, etc., c'est qu'elles... toute mon admiration pour elle et qu'elle ne baisse pas les bras. De toute façon, elle ne baisse pas les bras, elles avancent tous les jours pour leurs enfants, pour leur parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. Ce sont des gens tellement, tellement, tellement courageux. Pour mon successeur, homme ou femme, je ne sais pas qui c'est pour le moment. La chose que j'essaierai de faire passer, c'est cette notion que j'ai expliquée dans l'interview de pas se précipiter sur la crise du jour. Puisqu'on peut s'y perdre, mais vraiment de trouver la balance entre les causes et les symptômes, et aussi de continuer ce travail de fourmis pour trouver le chemin pour résoudre le paradoxe congolais.
Alors, nous n'avons pas dit à nos auditeurs qui vont nous écouter et qui nous écoutent où Bruno le Marquis part-il après la RDC. Il circule, que c'est l'Afghanistan. Est-ce qu'on peut le confirmer ce soir?
Alors, c'est un peu tard dans ma carrière pour avoir commencé à aller dans des pays par ordre alphabétique. J'aurais dû commencer il y a 35 ans. Mais en tout cas, je vais dans le premier pays, dans l'ordre alphabétique des pays, la lettre A, et donc c'est l'Afghanistan. C'est un contexte très différent, très particulier, surtout en ce moment où le pays est dirigé par donc des autorités de facto depuis 2021, qui est le régime des talibans, un pays où il y a beaucoup de questions de suppression de droits fondamentaux, de droits humains, des droits des femmes et des filles, mais également un pays avec une très très vieille histoire, une très grande culture. Des gens formidables, et tous les gens que j'ai rencontrés, et nombreux en RDC, des collègues qui ont travaillé là-bas, ont le souvenir d'un pays fascinant.
Bruno le Marquis, nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Afghanistan et coordonnateur résident, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses là où vous partez pour vos prochains challenges.
Merci beaucoup et merci pour la dernière fois à tous les auditeurs de Radio Okapi dans tout le pays. Merci beaucoup.
Merci.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Donna Madimba, coordination Alain Irung. Vous pouvez réécouter, voir, télécharger cette émission et d'autres numéros de grandes interviews en allant sur notre site internet radiookapi.net ou sur toutes nos plateformes numériques. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.